Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Aujourd'hui, Carole, on va parler de la beauté des corps.
Ouais, déjà.
Ça promet. Parce qu'un corps, c'est beau, mais c'est aussi politique, c'est unique et c'est érotique. Et pour ça, on reçoit Marion Chevalier et Salomé Burstein. Bienvenue.
Merci.
Merci.
Alors, vous faites toutes les deux partie de l'association Lusted Men, une association qui vise à poser un regard érotique sur les hommes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet asso qui est aussi un collectif?
Oui, c'est un collectif, c'est une asso depuis peu, enfin depuis l'été 2020. Et avant tout, c'est une collecte, c'est un projet photographique. En tout cas, c'est la première forme que ça a pris. C'est une enquête qui a été initiée à la base en juillet 2019, à l'initiative de Flora Blept, Laura Lafont et Lucie Brugier, qui s'étaient fédérées pour parler de la question, et qui se sont dit qu'en fait, ce qui manquait, sans doute, ce qu'on voyait peu ou moins, c'était des images érotiques d'hommes. Et du coup, l'idée, c'était de les collecter, de lancer un appel pour que les gens nous envoient des images. Donc, c'est d'abord passé par le visuel.
Et donc, on a lancé cet appel en ligne, qui a été relayé à la fois dans nos cercles proches, mais aussi par des magazines spécialisés en photographie, comme Fisheye, Combini ou Polka. Et on a eu des participations un peu partout dans le monde qui ont commencé à arriver.
Donc, ça a vraiment pris une grande forme, quoi. C'est passé à la base d'un article pour en fait fédérer tout un tas d'univers.
C'est ça, ça devient c'est une archive qu'on essaie de faire vivre à travers des événements. C'est aussi une communauté qu'on essaie de fédérer et avec qui on a plaisir à interagir sur la question.
Alors Carole, toi, tu as pu assister, moi malheureusement non, à la fameuse exposition qu'il y a eu en janvier. Tu nous racontes tes impressions.
Ah bah moi j'y étais le premier jour. Parce que je me suis dit, waouh, je vais voir des corps d'hommes érotisés, beaux. Alors au début, j'avais l'impression que j'allais voir plein de photos accrochées sur un mur. Et quand je suis arrivée, c'était pas du tout ça. C'était en forme de diaporama projeté sur un mur blanc. Du coup, on n'était pas nombreux et ça, c'était assez sympa parce qu'on voyait bien toutes les photos. Et je suis ressortie de là avec un désir immense, tellement toutes les photos étaient sublimes. Et de voir ces hommes, les postures qu'ils prenaient, comment ils se sont photographiés, enfin, l'envie était présente. J'y étais avec une copine et toutes les deux, on s'est dit « Waouh, ces mecs alors !»
Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé pour mettre en place cette exposition, la démarche artistique que vous avez eue, les personnes que vous avez contactées, comment ça s'est déroulé?
Alors nous, en fait, on a commencé. Ce qu'on a montré dans l'exposition, c'est les contributions qu'on a reçues pendant les 6 premiers mois de la collecte, donc de juillet à décembre 2019. Déjà, sur ces 6 premiers mois, il y a eu 230 participations. Nous, on tenait absolument à montrer une image par participant-participante, ce qui fait 230 images, donc wow. Beaucoup de choses à exposer. Ouais. Et de ça découle du coup des réflexions d'ordre pragmatique, mais aussi esthétique. Donc bien la sûr. Question, par exemple, des diapos s'est posée. On ne pouvait pas faire de tirage, on n'avait pas l'argent pour le faire. Et puis, c'était pas forcément on ne voulait pas rétablir de hiérarchie aussi entre qui est professionnel, qui est amateur, amatrice, parce que la collecte rassemble plein de types de photographes différents. Et du coup, on ne pouvait pas faire de tirage. On s'est dit quel ressort on va utiliser justement pour remédier à ça. Et en même temps, du coup, les diapos, on a pris en fait ces fichiers qui étaient des fichiers numérisés à la base qu'on avait reçus sur Internet et on est passé par un prestataire. On les a retransférés. Et puis aussi, on a pu faire ça dans le cadre d'un festival de photos qui s'appelle Photo Saint-Germain et qui nous a mis dans sa programmation.
Et puis au-delà de ça, après, il a fallu créer une sorte de narration. Mettre en forme un petit peu toute cette matière photographique qu'on avait. Et donc là, il y a eu un travail d'indexation des images, on les recevait, on repérait un petit peu des caractéristiques communes ou des sensibilités communes, des systèmes d'écho qu'elles se renvoyaient les unes les autres. Et donc on a créé une narration en chapitres, on a indexé ça avec des hashtags, le hashtag par exemple insomnie, muse ou érotique-lique, qui nous permettait d'aborder différents thèmes ou différentes manières d'approcher cette photographie érotique d'hommes.
Et alors, c'est quoi justement un corps érotique? Parce que ça, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai l'impression que ça dépend aussi des sensibilités de chacun.
Complètement.
Mais justement, en fait, le projet de Lost in Men n'a pas vraiment pour vocation de définir l'érotisme, puisque quand on essaie de rebattre des normes qui existent et qui nous paraissent un peu oppressives ou qui définissent et donc qui limitent l'érotisme, nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On a choisi de pas le définir, justement, pour avoir une pluralité de représentation de l'érotisme, une pluralité de vision. Et c'est ce qui est aussi intéressant.
Et c'est ce que montrent les photos, mais c'est ce que disent aussi des textes, parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un nous envoie des images, on invite la personne à remplir un questionnaire en ligne qui renseigne des informations de contexte, de la prise de vue, le rapport au modèle. Et notamment, parmi ces questions, il y a une question autour de l'érotisme, de quelle est leur définition de l'érotisme. Dans les images, dans les diapos qu'on a montrées, on a aussi inséré des bribes de texte de ces témoignages, qui permettaient aussi du coup de montrer textuellement, par le langage, par les mots, quelles pouvaient être les multiples définitions de l'érotisme, en sachant que là on parle de corps, mais que dans ces images et dans ces textes, on retrouve beaucoup de mentions au visage aussi, au décor, à l'air, à l'atmosphère. L'érotisme passe aussi par les détails, pas seulement par la mise en valeur.
Par les sens, et ça se voyait très bien dans ces photos. Mais à la fois, on ne peut pas dire que c'est érotique. Tout est érotique dans la manière dont ça a été pris. Que ce soit des amateurs ou des photographes, peu importe. Mais il y avait une beauté, il y avait une sensualité. Chacun avec sa perception. Mmh. Hein, parce que moi, ce que je peux trouver plutôt beau n'est pas beau pour quelqu'un d'autre. Mais là, il y avait quelque chose qui ressortait d'assez puissant sur ces diapos.
Il n'y a pas eu de réponse univoque apportée à cette question. Et c'est justement ce qui nous a fait bien plaisir. Et ce qui était chouette aussi, c'est de voir qu'en fait, l'érotisme, c'est peut-être finalement plus le produit d'une interaction ou d'une situation relationnelle plutôt qu'une chose en soi.
C'est une super belle approche, je trouve, de l'érotisme. Enfin, ce qui est agréable, c'est de se dire, en fait, une expo comme celle-ci peut faire du bien en fait à tout le monde, parce que c'est aussi se dire moi je trouve que un doigt est érotique ou un genou est érotique, et puis quelqu'un d'autre moi les oreilles, j'aime bien les oreilles. Mais ça permet de faire sens et de sentir aussi accepté dans sa vision.
Oui, c'est sûr. Nous, c'est intéressant parce qu'on l'a constaté même en amont de l'expo, quand nous, on travaillait ensemble à justement trier les photos, les indexer, les sélectionner. On voyait quelles étaient les photos qui fonctionnaient sur nous, qui marchaient sur nous, qui nous faisaient de l'effet. Et puis, du coup, on en débattait parce qu'on n'était pas toutes d'accord. Enfin, on n'était pas toutes alignées là-dessus. Et puis après, c'est effectivement ce qu'on a retrouvé dans l'expo, dans les retours qu'on a pu avoir, dans les interactions qu'on a pu avoir avec les spectateurs et les spectatrices. Et puis aussi, les gens étaient excités, on l'a entendu.
Et surtout, la particularité quand même, pour le rappeler, c'est que c'était des corps d'hommes. Et moi, j'ai une question déjà pour commencer, Carole. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à érotiser un corps d'homme? Je me rappelle, il y avait une expo, il y a un moment, au musée d'Orsay. Je ne sais plus comment, je vois que tu hoches la tête, Marion, sur, c'était masculin, je crois, au musée d'Orsay. Et justement, ils avaient déjà l'intention, ils disaient, en fait, on pose pas forcément un regard, on pose un regard différent sur un corps d'homme que sur un corps de femme. Et toi, Carole, pourquoi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal, en fait, à poser ce regard-là?
Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Tu sais, Laura, pourquoi
non, mais de ton point de vue, des patients que tu reçois, qu'est-ce que tu as l'habitude de...
C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont en couple, c'est un peu de l'acquis. Donc, surtout pour les hommes, tout est acquis. Dès qu'ils sont en couple hétéro, je parle de couple hétéro. Et donc, ils font plus beaucoup attention à eux, à part quelques exceptions. On ne fait pas une généralité là-dessus. Donc... et puis il y a tous ces clichés que si on est un peu trop apprêté, du coup on serait plutôt gay, on serait plutôt efféminé, on sait pas trop quoi ce qu'on est, quoi. C'est juste prendre soin de soi, de son corps, d'être bien avec son corps, parce que ça c'est important pour la sexualité, qu'on soit homme ou femme, c'est être bien dans son corps pour être bien dans sa sexualité
et faire sauter tous ces clichés qui permettent pas justement d'accepter son corps et d'être aussi dans la relation à l'autre ou à soi aussi.
À soi et à l'autre, c'est sûr. C'est que... Et puis les femmes, ça est toujours, on a toujours montré cette image sexuelle de la femme, quoi, par les formes, les seins, les fesses. Et l'homme a été oublié. Et moi, ce que je trouve sympa, c'est que c'est un collectif de femmes qui a remis les hommes en lumière par rapport à leur corps. Et ça, c'est puissant parce que du coup, ça montre à l'homme qu'il a le droit de se sentir beau, de montrer des photos, de se montrer, parce qu'on est aussi dans le temps où les photos, où les gens s'envoient leur sexe en photo, mais jamais s'envoient leur torse ou leurs pieds ou leurs bras ou leurs épaules, qui peuvent être des choses extrêmement érotisables.
Et justement, pourquoi ce sont alors des... Enfin, moi, c'est une des questions que j'avais et qui m'intrigue, c'est comment vous vous êtes sentie par rapport à ça et placée sur le fait que vous soyez des femmes qui ont choisi de faire une exposition, enfin de créer ce collectif sur le regard porté sur les hommes.
La non-mixité du collectif, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait choisi à l'avance. Il se trouve que ça s'est fait comme ça.
Naturellement,
mais ouais. On s'est pas fédéré en collectif en non-mixité. On perçoit plutôt le projet comme quelque chose de très inclusif et on invite, en fait, ce qui est important, c'est aussi les photographes de la collecte. Parce qu'il y a des hommes, des femmes, et vraiment, tout le monde est vraiment le bienvenu pour participer en dehors de son genre, de son orientation sexuelle. Donc je sais pas si on le vit comme un projet de femme, nous. En tout cas, moi, c'est pas vraiment mon cas.
Moi non plus. Après, on se définit comme une asso... Bon, nous, on est toutes féministes et on se définit comme une asso antisexiste. Mais c'est vrai que c'est pas la bannière sous laquelle... En tout cas, on s'est pas effectivement fédérées à cause de ça. Je pense que c'est pas anodin qu'on soit toutes, de fait, des femmes hétérosexuelles et qu'on aime regarder les hommes. Et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont venues du fait que ces images-là, on sait qu'elles existent, mais elles sont jamais montrées. Mmh. Elles nous manquent un peu, on a envie de les voir. Et on n'est pas du tout les seuls à les prendre. Les mecs les prennent, les femmes les prennent. Il y a aussi des personnes trans et des personnes non-binaires qui ont participé à la collecte.
Bien sûr.
Et du coup, c'était hyper important de montrer qu'elles existent, que cette pratique photographique-là, elle existe et qu'elle est assez joyeuse, enthousiasmante. Elle fait du bien à voir, à contempler.
Et puis le fait que le projet soit aussi ouvert, ça permet un peu de décloisonner les réseaux dans lesquels circulent ces images. Parce que par exemple, il y a énormément de photos homo-érotiques qui existent depuis longtemps, depuis les années 70 aux États-Unis notamment. Et toutes ces images-là, en fait, quand on n'est pas dans les réseaux dans lesquels elles circulent, on n'y a pas forcément accès. Et le fait que le projet soit aussi ouvert permet aussi de décloisonner ces canaux de circulation.
Puis la photo, c'est quand même un art. Et puis ça permet aussi d'aimer son corps. Parce qu'on se voit, qu'on se prend en photo, comme dans une glace en fait. Et après, on se voit et ça permet aussi d'aimer son corps. Parce que c'est quand même une des problématiques dans notre sexualité. C'est tant qu'on n'aime pas son corps, on n'est pas pleinement dans sa sexualité.
Ça revient beaucoup dans les témoignages, ça, effectivement. Ouais. Que ce soit des autoportraits, justement, qui ont été pris et qui montrent comment même les opérations de cadrage, par exemple, c'est quelque chose qui permet de reprendre possession de soi, en tout cas de se sentir pleinement soi. Et puis quand c'est aussi des photographes, en fait, qui regardent et qui prennent la photo et que c'est pas leur propre corps, c'est souvent une pratique qui a permis d'orienter leur désir ou de mieux le comprendre. C'est assez intéressant, en fait, ce que ces opérations, ce que le jeu photographique permet, en fait, vraiment à ce niveau-là.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur... on devrait en faire plus, même, pour s'aimer. Parce que c'est pas tout à fait la même chose que le jeu de se regarder dans la glace.
Ouais. Bah, effectivement, là, on peut monter, on peut jouer, on peut vraiment... On est plus maître ou maîtresse, en fait, de ce qu'on produit. Oui. Et en fait, c'est aussi un art, mais c'est effectivement une pratique qui est très... Enfin, que tout le monde peut faire. On a de la photo pixelisée, on a de la photo argentique, et on montre tout à la même enseigne. On a des photos de sexe, on a des dick pics, et on les montre, on les a montrées.
Et c'est ça qui est, enfin, pour revenir sur un autre sujet, mais c'est ce qui vous concerne pleinement. Justement, ces photos, elles sont dans une démarche artistique. On n'est pas dans quelque chose de pornographique ou autre chose. Et Instagram, j'ai vu, vous avez censuré il y a quelques semaines. C'était il y a une semaine.
Un peu plus maintenant.
Et est-ce que vous avez pu, enfin, comment est-ce que vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez répondu à cela? Parce que c'est vrai que c'est ça fait mal, quoi. J'imagine, quand on s'est autant investi comme vous à mettre en place ce projet, comment est-ce qu'on choisit de continuer à lutter par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réussit à continuer à avoir la niaque et à mettre à bien ce projet?
Ah, c'est sûr que ça a été assez compliqué, parce que ça a détruit un an et demi de travail, ça a détruit une communauté qui nous suivait, qu'on faisait vivre, avec laquelle on pouvait entrer en contact. Ça nous a aussi privé de pas mal d'opportunités de rencontres, quoi. Et ce que ça nous a permis de réaliser aussi, l'épisode de la censure d'Instagram, c'est que c'était pas tellement le corps qui était un problème, ou du moins que c'était pas tous les corps. Puisqu'il y a une injonction un peu paradoxale, c'est que sur Instagram, on encourage les femmes à se dénuder, que ça leur permet d'avoir un meilleur reach, comme on dit. Mmh. Donc leur image atteigne un nombre d'utilisateurs plus important si elles sont dénudées, alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Et ça, aussi, ça dépend aussi beaucoup de la démarche dans laquelle ces images sont montrées. En fait, c'était le caractère militant du projet qui a dérangé Instagram. Ce n'était pas le fait qu'on monte des corps. Et ça, c'était une autre prise de conscience. Là, maintenant, on se pose la question de... Est-ce que Instagram est vraiment une plateforme pour nous, une plateforme pour l'érotisme? Est-ce qu'on ne devrait pas se tourner vers d'autres réseaux où la censure est moins brutale aussi, puisqu'on a, ça s'est fait dans une totale opacité. Au début, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et on a eu beaucoup de mal à communiquer avec Instagram, avec la plateforme.
Puis c'est effectivement pas qu'une question de visuel, c'est-à-dire que c'est là où on n'a même plus la maîtrise. Nous, on était déjà assez prudentes avec ce qu'on mettait, le contenu qu'on diffusait. C'était très rarement des images, c'était beaucoup de textes. Et dès qu'on montrait des images, on faisait très attention à ce que les parties, que les sexes soient toujours floutés, voilà. Donc on pense que peut-être même les mots nous ont fait défaut, entre guillemets, ou nous ont fait repérer. Et effectivement, après, la chance qu'on a eue, c'est que c'est arrivé au moment de l'exposition. Donc au moment où on avait quand même un relais avec beaucoup de personnes qui étaient là tous les jours. Et du coup, on a eu des interactions réelles, en chair et en os, qui nous ont donné beaucoup de force et qui nous ont permis de nous dire qu'il y avait quand même un monde au-delà de cette plateforme virtuelle et que cette plateforme virtuelle était avant tout un moyen pour que ces rencontres-là puissent se réaliser.
Mais c'est vrai que ça reste ahurissant. Enfin, il y a vous et puis il y a plein d'autres comptes là. On a l'impression que c'est la guerre aujourd'hui à tous les comptes militants ou qui essayent de faire bouger les choses. Et tant mieux en tout cas que la communauté que vous avez pu mettre en place soit présente aussi, parce que c'est ça, parfois il y a des petits comptes aussi qui se lancent et tout de suite se font censurer. Et c'est délicat pour mettre à bien son projet. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez du coup faire là maintenant? C'est quoi les projets pour la suite, maintenant que vous avez fait une exposition, maintenant que votre collectif est davantage fédéré, notamment en asso, que vous avez eu autant de candidatures? Vous avez envie de faire quoi en fait ensuite?
On pourrait ajouter quand même que vous avez réouvert un compte Instagram quand même.
Oui, oui. Bien sûr.
Oui.
Depuis.
Lusted-du-bas-men.
Voilà, comme ça, tout le monde va suivre ce compte formidable. On va remettre le même nombre de followers et puis ça embêtera bien Instagram.
Au-delà de ça, l'année 2020 va être riche en projets.
2021. Mais c'est normal, la 2020, elle n'a pas existé. Donc
justement, en avril, on a une résidence de travail au cours de laquelle on va pouvoir faire tout ce travail de commissariat sur la collecte 2020. On a aussi une exposition prévue à Bruxelles en septembre prochain.
Super.
Et un projet d'édition aussi, qui est plutôt un projet de long cours et qui avance.
En fait, on a tellement de matière que... On ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, mais il y a effectivement énormément de possibilités. Puis on a aussi bon espoir que ces nouveaux formats vont se décliner avec les invitations, les rencontres qu'on va faire. On est passé par la photo d'abord, la photo nous tient à cœur et c'est la première forme qu'a pris cette enquête. Mais il y a de la place pour du texte, il y a même de la place pour des performances, pour des projections. On a plein d'idées en tête, on a plein d'envies. Et c'est vrai que Bruxelles, en tout cas, pour la seconde expo, c'est-à-dire la suite de la collecte qui n'a pas été encore montrée, mais les images qu'on a continué à collecter pendant 2020 et que là, on continue à recevoir, ont aussi vocation à être montrées, évidemment.
Super. Et ce sera où, à Bruxelles?
Alors, on va être accueillis par un artiste Run Space qui s'appelle La Nombreuse. Et après, on a peut-être des envies pour deux ou trois autres locations qui restent secrètes et mystérieuses pour l'instant.
Et vous n'avez rien sur Paris encore?
Non, pas
en fait, on vient de faire une exposition en janvier à Paris. Du coup, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles dates prévues à ce jour, mais pourquoi pas à l'avenir.
On a peut-être envie de faire ce qui était prévu en fait pendant l'exposition pendant Photo Saint-Germain, c'était de faire en parallèle une projection dans un cinéma avec lequel on avait établi un partenariat, le Christine 21, et on était censé du coup faire cette projection, mais les cinémas ont été fermés pour des raisons sanitaires. Peut-être que la projection pourra exister de manière indépendante, à voir dès que les cinémas pourront réouvrir. Et dans ce cas, ça fera une actualité Lost in Men cinématographique cette fois-ci.
Super. Ouais. Et peut-être qu'après, ce sera du podcast aussi. Ça peut être.
Peut-être.
Ça peut prendre toutes les formes. Mm-hmm. Et bien, merci beaucoup, Marion et Salomé, d'être venues au micro de Vibrante. C'était un magnifique moment qu'on a partagé ensemble. On a pu vraiment se sentir libre aussi de poser le regard qu'on souhaite sur les corps. Il faut savoir que la collecte de 2021, elle est ouverte. Vous pouvez retrouver sur le site
Et je
www.lostedmen.info.
Voilà. On espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, ça nous fera plaisir. Et nous envoyer vos retours, vos questions par DM vocaux sur Instagram. Et je vous dis à très vite.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.